Bonjour bien-aimé. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui fait cette grâce. De pouvoir... Peut-être il faut juste que tu laisses cette lumière par ici, pour moi. Oui, moi j'ai une petite baisse de... Tu allumes juste celle-là, voilà, c'est très bien. Ça me va très bien, merci Iras. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais quelqu'un disait, on ne sait pas du tout ce qu'on veut en fait. Des fois on dit, il fait très froid. Des fois on dit, il fait chaud. Et des fois on dit, il fait très chaud. Et j'étais quelque part où je parlais de Dieu, je ne sais plus, à une personne. Et c'est pas, je pense que ce n'était pas une chrétienne en tant que telle. Et la personne m'a dit... C'est bien quand même que vous puissiez dire à Dieu de nous aider par rapport au climat. J'ai dit, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être vrai aussi que nous, on doit prendre un peu plus soin de cette création que Dieu nous a donnée, parce que quelque part, on est un peu coupable aussi de ce qui nous arrive. Voilà. Donc, il y a de l'eau qui circule, n'hésitez pas à vous désaltérer. Nous allons tenir compte de ce temps par rapport aussi à la grâce que Dieu nous fait. J'aimerais continuer de nous encourager en ce temps de rentrée, de reprise, pour que nous puissions continuer notre marche chrétienne, mais comme toute reprise est un prétexte pour nous remettre d'aplomb, pour repartir de plus belle avec le Seigneur, j'aimerais ce matin que tu entendes que tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. C'est une parole qui a été dite à quelqu'un il y a bien longtemps, et nous verrons de quelle personne il s'agit tout à l'heure, mais comme toute rentrée, on va dire, de toute reprise, on n'est pas à l'école, mais c'est un peu comme, voilà, on va faire une révision ce matin. Il y a quelques-uns d'entre nous, ça fait longtemps qu'on a quitté les bancs, donc les révisions nous font plus peur, mais c'est vrai que la reprise, c'est aussi un temps où ceux qui sont professeurs, enseignants ou éducateurs font des petites révisions, et là, on se rend bien compte ce que les enfants ont oublié, ceux dont ils se souviennent, ceux qui ont eu des cours de un peu de renforcement avant la reprise. Nous, on va voir qui a fait des cours de renforcement ou qui l'a pas fait. Ça sera juste une introduction, un peu pour nous encourager dans notre rapport à la parole de Dieu. Et puis ensuite, on reviendra sur le message de ce matin. Tu veux juste afficher la prochaine slide, s'il te plaît. Les Écritures. Généralement, la Bible est appelée soit l'écriture, soit les écritures. Les deux thèmes vont bien. Et on sait qu'au cœur de ce livre, dont je le mets là, c'est ma toute dernière acquisition en fonction de l'usage que je fais ou en fonction de l'âge à lequel j'arrive, j'adapte la Bible. Je crois que j'ai commencé à avoir besoin de lire un peu de gros caractères. Voilà. Ça veut dire que j'ai passé un certain âge où les petits caractères me font un peu mal aux yeux. Je vous dis ça pour vous dire que la Bible est accessible aujourd'hui. Tous ceux qui veulent la voir, cette Bible peuvent l'acquérir à tous les prix. Je ne connais pas un livre qui fait plus de 1000 pages qui continue de coûter moins de 10 euros. Je n'en connais pas. C'est l'un de ces livres qui fait plus de 1000 pages que vous pouvez acquérir pour 3,50 €. C'est incroyable ça. 3,50 €, vous avez une Bible. Et même nous là, si vous êtes là ce matin que vous n'avez pas une Bible, vous nous demandez, on va vous offrir une Bible gracieusement. Parce qu'on est là pour faire en sorte que chaque être humain ait cet écrin de sagesse entre les mains. Parce que la Bible est un écrin de sagesse. As-tu une Bible? Éric l'a dit, aujourd'hui personne ne peut plus dire, je n'en ai pas. On en a en papier, on en a en numérique. On a toutes les sortes de moyens de l'avoir. Par contre, pour ceux qui acquièrent des Bibles en numérique, je vous encourage à vérifier les versions que vous téléchargez en numérique. Toutes les versions de la Bible qui sont sur le net ne sont pas les versions originales. Faites attention à cela. C'est important de le dire. Parce que souvent les gens disent, mais c'est écrit dans la Bible. Je dis, mais de quelle version tu parles? Laquelle des versions tu as? Parce que n'oubliez pas que certaines sectes dites chrétiennes ont leur propre version de la Bible. Et souvent, ces sectes-là, elles sont tellement puissantes financièrement que sur le numérique, elles ont envahi le numérique avec leur version de la Bible. Donc vous croyez télécharger une version originale de la Bible, mais en fait vous téléchargez une version un peu déjà pipée. Ça, je dois vous le dire. Ok? Vous avez une version dans laquelle, quand vous allez les lire, tout ce qui a été, tout ce qui concerne Jésus est écrit non seulement avec petit J, mais où Jésus est appelé Dieu, ça va le dire avec un petit D, parce que cette version a pris l'option que Jésus n'est pas Dieu. Mais vous l'avez dans les mains, vous pensez que c'est la Bible et que c'est la version originale. Non. C'est une version qui déjà, dans sa conception, dans sa traduction, a acquis que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais c'est des chrétiens, hein, soi-disant. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc l'écriture est ce écrin de sagesse au cœur duquel Dieu déploie son plan pour l'humanité, pour le monde et pour tout l'univers. C'est là que Dieu parle. Dieu parle à toutes les générations en fonction de la période de l'histoire. Quand il n'y avait pas encore de support écrit, Dieu parlait dans l'oralité. Et même dans cette oralité, il a été capable de graver les 10 commandements sur une pierre pour que Moïse l'ait. Et ensuite, au fur et à mesure que l'intelligence que Dieu donne aux hommes leur donne de créer des supports, Dieu encourage son peuple à ancrer sa parole sur ces supports-là. Ça a commencé à ce qu'on appelait des peaux d'animaux à l'époque, ensuite du papyrus, et aujourd'hui, nous on l'a même en numérique. C'est incroyable. On l'a même en numérique. Et c'est le cœur du plan de Dieu qui est décrit dans ce livre. Il donne ce que Dieu attend, Dieu fait dans l'histoire du monde. Depuis le premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre. Il y a les écrits qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout ce qui a été dit par Dieu au travers des hommes et qui a été inscrit avant la venue de Jésus-Christ. On sait que la venue de Jésus-Christ est marquée par notre calendrier à l'an zéro. Et ça s'appelle l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle 3 grands blocs de livres. On a la loi de Moïse, donc tous les livres dont l'auteur est Moïse, qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. On a les prophètes, hein, et puis on a les écrits. C'est des blocs. Et dans ces blocs, en fait, on découvre qu'on a 39 livres dans l'Ancien Testament. 39 livres. Et puis, vient le temps de Jésus, et à la suite de Jésus, on va avoir d'autres écrits qui vont être appelés le Nouveau Testament, parce qu'on est sur le principe de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il aime tisser alliance avec les humains. Et donc, l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance, pas qu'elle est dépassée, mais c'est celle qui était venue avant le Christ. Donc, l'ancien ou le nouveau, c'est pas que c'est passé, c'est pas que c'est plus, c'est meilleur, c'est par rapport au Christ, en fait. Le Christ est le centre, et tout ce qui vient avant lui est ancien, donc, avant Christ, et tout ce qui vient après lui est nouveau après Christ. C'est pour ça que on a gardé cette étymologie, ancien et nouveau testament, comme on peut dire, ancienne alliance et nouvelle alliance. Et le Christ lui-même, dans son ministère, dira, je ne suis pas venu pour abolir cette ancienne alliance, mais je suis venu pour lui donner tout son sens plein, son sens complet. Alors, l'exercice que nous allons faire ce matin. Nous allons déjà voir, et on a commencé à le faire dans les réunions de mardi, dans les études bibliques, on prend détail après détail. Vas-y, s'il te plaît. Et on essaie de voir comment ce grand plan se déroule. Il y a ce qu'on appelle le plan global, et j'en parlerai ce matin dans cette méditation, et qui se situe en tout cas, l'un des curseurs se situe dans l'Ancien Testament, dans le premier livre, dans le livre de Genèse, chapitre 12, et on verra tout à l'heure pourquoi ce curseur-là. Ensuite, il y a tout le récit sur la nation choisie par Dieu dans le sens pédagogique et pas dans le sens qu'ils étaient les meilleurs, la nation d'Israël. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle le royaume futur qui va se mettre en place sous le ministère de quelqu'un qu'on appelle Samuel. Et on va voir avec, après Samuel, les rois et toute l'histoire du royaume, qui est un royaume, on va dire, pédagogique de Dieu, qui va se dérouler. Et puis, on va voir l'annonce du vrai royaume ultime, le royaume que Dieu prépare. On le voit dès le Nouveau Testament avec le Christ, Marc chapitre 1, et dans Luc aussi, il dit que le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est Jésus qui le dit. Et puis, commencement de ce royaume, Jésus instaure le nouveau royaume de Dieu. Dès sa entrée dans le monde, donc il y a plus de 2000 ans que le nouveau royaume de Dieu a commencé, et ce royaume se manifeste ces temps-ci par l'Église, le corps de Christ. le peuple de Dieu. Et puis, ultimement, l'accomplissement de ce royaume, qu'est-ce qui attend les choses de la fin? Et des fois, cycliquement dans l'histoire des humains, Dieu nous rappelle les choses de la fin. Aujourd'hui, on ne lit pas ça comme ça, mais je suis désolé, il faut aussi le lier comme ça. C'est vrai que les hommes, les humains, de par la gestion de cette terre, sont un peu responsables de ce qui nous arrive ces temps-ci. Et ce qu'Éric disait qui est juste, c'est que dans le même pays où des feux ont été ravageurs pendant plusieurs semaines, dans le même pays, c'est les inondations qui font ravage. Et avant-hier, sinon hier, nous avons été tous meurtris par cette catastrophe, par ce 6 de magnitude 7 qui a dévasté une bonne partie du Maroc. Le bilan continue d'être lourd. Plus de 2000 morts ce matin qu'on annonce dans cette catastrophe humaine. Je vous invite à prier pour le Maroc. Prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour ce pays. Nous voulons nous souvenir de toute cette détresse. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu es celui et qui vient au secours de ceux qui sont dans la détresse. Et nous voulons prier que tu viennes au secours des Marocains, Seigneur. Nous te prions pour toutes ces grandes nations qui ont des moyens et qui sont en train de les déployer. Et nous voulons te dire merci, parce qu'au cœur de l'être humain, même celui qui ne te connaît pas, tu as gardé le degré de la charité, de la compassion, de la miséricorde. Merci pour ces pays. Que ces moyens soient débloqués, s'il te plaît. Et que tous ceux qui sont des spécialistes dans l'aide humanitaire, dans l'aide aussi, Seigneur, que tu leur donnes de quoi ils ont besoin, les moyens dont ils ont besoin, que tu protèges toutes ces équipes qui sont sur ce terrain en train de sayer, de secourir encore des personnes sinistrées. Quant à nous, donne-nous le cœur non seulement de prier pour ces situations, mais si nous avons ce cœur, donne-nous aussi d'y participer, chacun à son niveau, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus, amen. Dans Matthieu, le chapitre 24, Jésus le dit clairement. Il dit, car dans les temps de la fin, voici les signes qui annonceront ces temps. Il y aura des catastrophes naturelles. On était déjà en l'an 30 quand Jésus disait ça. Il y aura des chamboulements climatiques. Il a dit avec les moyens, avec les expressions de son époque. Il dit une expression qui est un peu obscure pour nous, mais qui a du sens. Il dit, car le soleil s'obscurcira. Il y aura des tremblements de terre. Et quand ces choses arrivent, oui, il faut être en compassion, mais ça doit nous réveiller au fait que Dieu est au contrôle de ce monde et que ce qu'il dit s'accomplit aussi. Tout n'est pas forcément jugement méchant de Dieu, mais des fois, ça rappelle notre fragilité. Nous sommes fragiles. On peut juste être en train d'aller se coucher et être frappé par un séisme. Et personne n'est à l'abri, c'est vrai. Personne. J'entends des spécialistes qui parlent de maisons sismiques. Vous savez, c'est bien toutes ces garanties sécuritaires. Il faut les faire. Mais quand le malheur veut frapper, même des fois ça tient pas. Et encore, c'est la grâce de Dieu quand ça tient. Quelqu'un a dit, lorsque ces spécialistes faisaient ce débat sur les maisons au Maroc, il dit, vous savez, la dernière fois qu'on a vécu ça, ça date et personne même ne se souvient. Donc, c'est pas forcément ces maisons-là, puisqu'elles sont là depuis des décennies. Parce qu'on cherche toujours à nous rassurer que Dieu n'est pas dans cette affaire. Que nous sommes soit capables de gérer. Non, des fois, il faut être juste humble et dire, Seigneur, aie pitié de nous. Comme le disait notre sœur dans sa prière, Seigneur, regarde pas à nous, mais fais à cause de ta grande miséricorde. À cause de ta grande miséricorde. Et nous qui sommes dans des pays dits occidentaux, dits civilisés, quand tu te réveilles le matin, dis merci Seigneur, c'est ta grâce. C'est pas la sécurité, c'est pas la technologie, elle est utile, mais c'est la grâce de Dieu. Vous savez, les Ukrainiens se sont réveillés un matin, et jusqu'à aujourd'hui, certains se demandent s'ils sont dans un mauvais rêve. Jusqu'aujourd'hui, certains se demandent s'ils sont dans un mauvais rêve. Parce que la veille au soir, leur pays était tranquille. Leur pays était tranquille. Et voilà des mois déjà, voilà une année. que ce pays beau, prospère. C'est le grenier céréalier, non seulement de l'Europe, mais de toute la, de tout le monde entier. C'était un des greniers du monde entier qui a été frappé. Et ils sont dispersés par tout le monde. Et ils se cherchent un peu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Il faut s'en convaincre. Il faut s'en souvenir. Et donc, cet accomplissement du royaume, Jésus en a parlé et l'apôtre Jean a eu cette révélation qu'on appelle l'Apocalypse, où il parle de ces choses en images. Et dit, elles sont là pourquoi ? Pas pour la catastrophe. L'Apocalypse ne veut pas dire catastrophe. On l'a traduit comme ça. Mais l'Apocalypse, elle veut dire révélation. Les choses qui vont venir en bien, puisque l'Apocalypse commence avec le Seigneur glorifié qui dit, je suis présent. Je tiens les rênes de ce monde. Ces choses vont arriver, mais je suis là. Je domine, je suis vainqueur. Mais le cœur de l'homme est tellement mauvais qu'il est le propre destructeur de son avenir. C'est ça notre tragédie. C'est qu'on croit qu'on est tellement bon et qu'on est capable du meilleur. Mais en fait, c'est faux. On est tellement mauvais que quand nous faisons le meilleur, c'est la grâce de Dieu. Le meilleur qui est en nous vient de la grâce de Dieu. Sinon, nous-mêmes, nous sommes foncièrement mauvais, totalement mauvais. Les statistiques parlent pour elles-mêmes. Les drames les plus atroces ne se passent pas toujours dans des pays dits pauvres. Ça se passe dans les pays dits riches. Dans les pays où tout le monde mange à sa faim, c'est là que quelqu'un va se lever dans la nuit, il va tuer sa femme, il va tuer ses deux enfants. Et on dit qu'il a pété un plomb dans une société dite civilisée. Qu'un monsieur, avec toute sa tête, poignarde son ex-femme devant ses enfants en pleine rue, dans un pays dit civilisé. Jalousie. C'est énorme ça, c'est énorme. Quelqu'un que tu disais, hey, mais hier, yeah, tu es capable de ça. Ouh. Des fois, nous devons avoir pitié de nous-mêmes. Nous sommes misérables en fait. L'être humain est misérable. Mais on n'est pas conscient de cette misère. Et donc, ça nous donne pas de crier à Dieu, de dire, secours, Seigneur, viens transformer nos cœurs. Le prophète dit, car vos cœurs sont le cœur de pierre, tellement durs qu'elles sont en pierre. Mais Dieu veut faire de ces cœurs de pierre des cœurs de chair. Il veut les ramollir. Il veut les rendre nobles et pleins d'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la Bible, cet écrin de sagesse, cette parole de Dieu, depuis le premier jusqu'au dernier livre, nous parle de cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un beau livre. Parce qu'il nous donne de découvrir le plan d'amour de Dieu. Alors, le petit test que je veux faire ce matin, c'est pour les plus anciens. Avez-vous ce rapport régulier avec la parole de Dieu? Êtes-vous capable, parce que c'est le livre de notre vie, hein, êtes-vous capable de citer les livres bibliques comme ça, hein, depuis Genèse? Si je disais, citons ensemble les 5 premiers livres. On y va? Genèse? Donc, c'est nombre Lévitique, Deutéronome, ou c'est Lévitique, nombre Deutéronome? Parce que j'ai entendu quelques hésitations. Lévitique, nombre Deutéronome. Non. C'est nombre Lévitique, Deutéronome. Non. Non, je vous embrouille moi-même esprit. C'est Lévitique, nombre Deutéronome. On est bien d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment le livre de notre vie. En fait, vu que c'est le livre de notre vie, nous devons être des spécialistes, ne serait-ce que dans la chronologie biblique des livres. C'est important. C'est important. Donc, que Dieu nous aide. J'ai quelques exemplaires là tout à l'heure, ceux qui voudraient. Je les laisse sur la table. Ça vous donne un aperçu de ce qu'on appelle les grands blocs du livre de la Bible. OK? Je vais les laisser là sur la table. N'hésitez pas à vous servir. Et donc, dans cette première partie, justement, nous allons voir Genèse chapitre 12. Vas-y, s'il te plaît. Et je vais vous parler de quelqu'un. Je vais vous parler d'Abraham. Dimanche passé, je vous ai parlé de Salomon. Ce dimanche, je vous parle d'Abraham, qui va devenir plus tard Abraham. Hein? Son premier nom, son prénom était Abraham. et qui deviendra plus tard Abraham. Et nous comprendrons pourquoi. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Verset 4. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les aides qu'il entretenait à Haran. Il partit pour le pays de Canaan. Amen. Jusqu'à présent, jusqu'à ce chapitre 12, quand on lit les 12 premiers chapitres de la Bible, les êtres humains, malgré toute la bonté de Dieu envers eux, étaient en échec régulier. Échouaient complètement à rester intimement liés à Dieu. Il y avait cet échec-là. Adam et Ève, nos premiers ascendants, ont échoué aussi. Et c'est d'eux, malheureusement, que nous tirons ce qu'on appelle le péché originel, parce que c'est à cause de cette désobéissance que les êtres humains sont dans ce malheur aujourd'hui. Ensuite, Dieu continue son programme d'amour. Et malgré ça, l'être humain continue d'être encore, ma femme dit, on ne dit pas plus pire, elle a raison, mais l'être humain continue d'être plus pire. Au point où le texte lui dit qu'il ne respirait que le mal. Vous voyez l'image? C'est-à-dire, il respirait que le mal. Or, la respiration est vitale. Donc, même ce qui était vital pour eux, c'était le mal. Et le mal avait gangréné toute l'humanité. Et Dieu s'écrit, mais que vais-je faire de cette humanité? Et il y a un seul qui reste fidèle encore. Il s'appelle Noé. Au travers de Noé, Dieu essaie un plan de sauvetage à nouveau. Et Noé ne fait que crier aux hommes. Ah, changez. Dieu a dit qu'il va punir. Personne ne l'écoute. Tout le monde dit, oh là là, ce type, il a pété un câble. Franchement, on est tous bien là, on vit nos vies, on est tranquille, chacun fait ce qu'il veut, c'est mieux comme ça. Cette affaire de Dieu, c'est un peu embêtant et ça cadre trop et ça nous embrouille. Nous, on veut vivre ce qu'on a envie de faire, on veut faire ce qu'on a envie de vivre. Et Noé dit ok, et il continue de dérouler le plan de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu scelle cette grande arche qu'il a construite, et malheureusement, ce que Noé avait prédit arriva, et le déluge se déversa. Jugement encore. L'homme avait échoué une fois de plus. Dieu continue avec Noé, son plan de sauvetage. Et on arrive au chapitre 10 du livre de Genèse, chapitre 10, chapitre 11. Et là, ils se disent, waouh, c'est bien. Maintenant, on est super intelligent. Nous, on n'a plus besoin de Dieu. On va se faire notre propre tour de contrôle qui va jusqu'au ciel et on va tout contrôler nous-mêmes. Ça s'appelle la tour de Babel. Une fois de plus, ils ont échoué. Et Dieu est un Dieu de grâce, il les détruit pas. Il juste une confusion de langue pour que ce projet, apparemment un projet d'unité, mais qui au fond est un projet orgueilleux, n'aille pas plus loin. Et c'est de là que Dieu va continuer son plan de sauvetage. Il va dire, je vais le faire cette fois-ci avec un homme encore. Dieu, il nous aime. Hein? Tous ses plans se passent avec des hommes et des femmes. Il ne fait pas sans nous, il fait toujours avec nous. C'est incroyable quand même. Et c'est là qu'on a le chapitre 12 où il va appeler Abraham. Et c'est ce que je vous ai lu là. C'est l'appel d'Abraham. Et cet appel est adressé à Abraham et Abraham va y obéir, n'est-ce pas? L'appel d'Abraham avait un but. C'était une obéissance qui devait déboucher sur une grande bénédiction. Si Abraham n'avait pas obéi, honnêtement, nous ne serions pas là 2023. Hein. Il faut vraiment vous le dire. C'est ce qu'on appelle le récit, le méta-récit de Dieu. C'est-à-dire, avec du recul, quand on regarde, lui, il savait avant Dieu, mais nous, maintenant, on a du recul. Si Abraham n'avait pas été obéissant, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Il faut en être conscient. Il y a deux impératifs dans l'appel d'Abraham. Dieu dit pas. Je veux faire quelque chose de nouveau, mais je ne peux pas faire ça avec de l'ancien. Pas. Mets-toi en mouvement. Pars de là où tu es. Parce qu'il était dans un pays idolâtre. Son père, qui s'appelle Terah, Terah habitait où? Et c'était un pays d'idolâtrie. Alors que Sem, l'un des descendants de Noé, adorait le vrai Dieu. Donc, l'ancêtre d'Abraham. Mais ça s'est perdu de génération en génération et ses descendants sont devenus des idolâtres par la suite. Parfois, nous, les familles chrétiennes, on transmet. On fait nos efforts avec nos enfants. On met le cadre et on prie Dieu que nos enfants soient conscients que c'est un privilège. Dieu nous fait la grâce de nous confier un écrin de sagesse pour que la chaîne continue, la chaîne de transmission continue. C'est comme si on avait reçu un trésor innommable et que nous devons transmettre à la fin de notre parcours. Vous savez, c'est comme le jeu du relais. Le relais, parfois, c'est un relais à quatre. Vous avez quatre athlètes et chacun doit faire l'effort de transmettre un bâtonnet à l'autre et l'autre doit faire l'effort. Et des fois, ce qui est tragique, c'est que le premier, pendant qu'il veut remettre au deuxième, les deux tombent et le relais s'arrête. C'est quand même bête parce que parfois, c'est des très bons athlètes. Et on se demande, mais comment il a fait pour faire tomber son gars? C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes un peu dans cette image de relais. Nous devons transmettre pour que cet écrin de sagesse, cette parole, ce trésor continue d'atteindre les générations d'après jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes bénéficiaires parce que nos devanciers nous l'ont transmis. Alléluia, ils ont été fidèles. Ils nous l'ont transmis. C'est à nous de transmettre à nos enfants, à la génération d'après. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit pas parce que je vais refaire avec toi quelque chose de nouveau. Premier impératif. Le deuxième impératif, c'est tu seras, c'est pas un vœu en fait. C'est une proclamation de Dieu. Il dit tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Abraham, tu seras une bénédiction. Tu seras non seulement une bénédiction pour tes descendants, mais au-delà de tes descendants, tu seras une bénédiction pour toutes les famille de la terre. Moi, je me dis, Abraham, je ne sais pas comment il avait compris ça. Franchement, Dieu te dit, toi, X, tu vas être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est énorme comme promesse de Dieu. Et dans cet impératif, Dieu dit, en fait, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, le point de départ que tu es va communiquer beaucoup de choses de bien à la suite. Sois conscient de cela. Sois conscient de cela. C'est ce qu'il dit à Abraham. Et ce que Abraham va faire s'il obéit, ça va entraîner une cascade de réactions. Et cette réaction, nous on peut dire aujourd'hui, oui, elle a eu lieu puisque nous sommes là. Alléluia. Elle a eu lieu puisque nous sommes là. Puisque nous sommes là, elle a eu lieu. Et au travers de cette bénédiction, on va avoir quelque chose qu'on appelle, certains spécialistes appellent des synergies, trois promesses qui vont déboucher sur trois autres promesses. L'une des choses que Dieu va dire, c'est que Abraham va être la source d'une grande nation. Et c'est vrai, il est la source d'une grande nation. L'une des grandes nations qui a été aussi une nation petite mais grande dans son rapport à Dieu, c'est Israël. Israël n'a pas été un grand empire comme l'empire de Charlemagne, mais Israël était un grand empire dans le sens où le Dieu vivant est resté toujours en communion avec ce peuple-là, comme un peuple pédagogue. Une fois de plus, Israël n'est pas un peuple parfait. Israël est un modèle. Vous savez, un modèle, c'est quelque chose que tu prends pour montrer l'exemple aux autres. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le plus parfait, c'est un modèle. Une grande nation, et ça s'est réalisé. Tous les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, quand ils parlent de leurs ancêtres, ils disent « Nous sommes les descendants de qui ?» D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pas que les Juifs. Même la religion musulmane aussi. Elle se réfère à Abraham. Parce que dans la religion musulmane, il y a ce qu'on appelle la fête du mouton, l'Aïd Kébir, c'est le sacrifice d'Abraham. Donc il se réfère aussi à Abraham. Puisque leur descendant, leur ascendant, Ismaël, est un fils d'Abraham. Et nous, les croyants, nous nous référons aussi à Abraham. Donc on dit, les trois religions monothéistes se réclament tous d'Abraham. Parce qu'il y a eu cette promesse en lui. Amen. Il y a eu cette promesse en lui. Donc cette bénédiction pour Abraham a été matérialisée dans le concret de sa vie. Non pas de façon linéaire. Abraham a eu des épreuves incroyables. Donc des fois, notre vision de la bénédiction, elle n'est pas tout à fait complète. Quand on parle de bénédiction, c'est comme s'il ne devait pas avoir des temps de preuves ou de difficultés ou de souffrances. C'est pas vrai du tout. Lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir les épreuves qu'il a traversées, le pauvre. Et pourtant, à la fin, il est reconnaissant en Dieu de cette bénédiction. Parce que la main de son Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est de ça qu'il s'agit. Et les trois promesses qui sont liées à ces trois actions de Dieu, c'est que Dieu bénira ceux qui béniront Abraham. Mais que Dieu aussi maudira ceux qui bafoueront Abraham. Parce que celui qui s'en prend à Abraham, en fait, ne s'en prend pas qu'à Abraham, il s'en prend aussi au Dieu d'Abraham. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme les enfants quand ils sont dehors. Quand il y a des histoires, il dit, tu vas voir, je vais appeler mon père. Mais le père n'a rien à voir dans cette histoire. C'est entre toi et ton copain. Mais parce que son père, il a confiance. Et généralement aussi, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe tout de suite? On ne cherche pas à savoir si il a raison ou pas. Voilà, tout de suite, chacun défend son fils. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un peu cette image, mais en grandeur nature. Celui qui s'en prend à Abraham, en fait, s'en prend aussi au Dieu d'Abraham. Et l'une des histoires les plus tragiques, c'est quand Abraham a peur et qu'il dit à Saraï de mentir, qu'elle est sa sœur, et qu'un roi la prend pour épouse, et que le roi a une révélation par la suite. Il s'est dit, oula, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que mon esprit est embrouillé depuis que j'ai pris cette femme et que je dis, je vais la marier. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu parle à ce roi qui n'est pas un roi, on va dire, croyant dans ce sens-là. Et il fait venir Abraham. Et Dieu dit à Abraham, va prier pour lui. Parce que tu n'aurais pas dû faire ça. Parce que vu que tu as fait ça, et que quelque part, il a atteint, il t'a bafoué, je vais être obligé de le punir. Mais en fait, c'est un peu ta faute. Donc va prier pour lui pour que la punition n'arrive pas. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Incroyable. Incroyable. Donc, les lois spirituelles, mes bien-aimés, elles agissent dans le monde que nous ne voyons pas. C'est pour ça que le Nouveau Testament dit que quelquefois, l'enfant de Dieu, quand il a tout fait pour se défendre, il doit dire, je laisse pour moi au Seigneur. Mais c'est terrible quand un enfant de Dieu dit ça. Parce que la Bible dit qu'un enfant de Dieu dit ça, ça veut dire que Dieu prend le relais de sa vengeance, en fait. Et que malheur à celui dont Dieu prend le relais de la vengeance de son fils, en fait. Et c'est vrai spirituellement, et ça se manifeste spirituellement. Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si c'est vous là, il dit, pardonnez, même vos ennemis. Laissez-moi m'en chercher. Et le texte, il est tellement fort que des fois, il faut faire attention avec ça. Parce que le texte dit, si on dit, Seigneur, prends ma vengeance, c'est comme si on mettait des charbons ardents sur la tête de la personne qui est en train de nous porter injustice. Vous voyez l'image? Le chardon, c'est comme du charbon dont on a mis le feu dessus et qu'on verse sur la tête d'une personne. Donc la personne est en train de brûler littéralement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des promesses très fortes pour les enfants de Dieu. Et ça nous rassure parce que Dieu est celui qui défend la cour de ses enfants. Et finalement, cette troisième mission, je bénirai les familles de la terre au travers de toi. Que Dieu nous aide. Parce que on dit que Abraham, il est le père des croyants, n'est-ce pas? C'est lui qui est le père de la foi. On dit, c'est parce que lui, il a fait confiance à Dieu, pas à ses forces lui-même. On dit, Abraham est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. Dieu lui a dit, pas, il dit, je pas. C'est incroyable, hein? Nous, on dirait, attends, Seigneur, quand même, il me faut une boussole, il me faut un GPS, mais où tu veux m'envoyer? Parce que là, je comprends pas, là, je pars où? Ah ben franchement, t'es fou, tu pars où? Ah, je pars à l'aventure. Mais qui t'a dit? Dieu. Wow. Là, tout le monde dit, il a besoin d'un psychologue. Parce que là, ça va pas du tout. Il entend des voix en plus. Wow. Mais on n'est pas dans cette génération, on est dans une génération où Dieu parlait comme ça. Où il y avait plusieurs témoignages, n'est-ce pas? Donc, Abraham est dans une génération qui connaît ça. Et donc, il a confiance. Et il part dans un pays qu'il ne connaissait pas. Mais c'est pas tant qu'il ne connaissait pas le pays, c'est l'itinéraire, les détails, Dieu lui a donné au fur et à mesure de son périple. Parce que Dieu voulait tester sa confiance. Sinon, Dieu aurait pu lui donner ça dès le départ. Hein. C'est un petit souci pour Dieu, ça. Mais Dieu voulait tester la confiance régulière. C'est comme souvent on dit, Seigneur, montre-moi l'avenir. Ça serait bien. Si je sais que demain, tout est nickel. En fait, quand on demande l'avenir, on veut voir tout ce qui est bien. Parce que quand on nous montre ce qui est mal, on dit non, ça, c'est pas la vraie révélation. Parce qu'en principe, tout doit être bien, franchement. Qui demande, montre-moi ce qui fait peur? Personne ne demande ça. Mais on demande toujours, montre-moi ce qui va arriver en gloire. Or, Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance, n'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît. Reviens, t'as raison de rester sur la diapo d'avant. Ce plan de l'histoire, et je termine par là, quelques applications concrètes pour nous. Dieu a choisi un homme et sa famille pour former un peuple. Moi, j'ai comme l'idée que parce que tu es dans cette église ce matin, Dieu a mis sa main sur toi, Dieu t'a choisi. Vous savez, oui, le hasard, ça peut exister, j'en sais rien. Mais moi, dans ma conception et selon la conception biblique, en fait, on n'est pas le fruit d'un déterminisme absolu. Ça veut dire tout ce que je fais est déjà prédit d'avance. Moi, je crois pas ça. Je crois que Dieu nous laisse des êtres libres. Mais qu'en même temps, Dieu, il nous aiguillonne, il aime ça. Il nous met des petits, vous savez, comme des jeux de piste. Il nous met des petites balises. Quand on les découvre, waouh, vous avez déjà fait un jeu de piste? Vous savez un jeu de piste? Non? Personne n'a jamais fait un jeu de piste? Si, quand même. Non? Mais oui. Non, je veux me rassurer. Vous me répondez pas, donc je suis un peu perplexe, là. Voilà. Un jeu de piste, on vous donne une légende au départ du jeu, et on vous donne un itinéraire. Mais en fait, vous devez découvrir au fur et à mesure les balises pour vous diriger jusqu'au bon endroit. Et quand vous trouvez les balises, vous êtes sur le bon itinéraire. Quand vous trouvez pas, en fait, vous vous perdez à perpète. Et au bout du bout, certains même, on les retrouve pas sur la ligne d'arrivée parce qu'ils ont pris des mauvaises balises. Hein? Maintenant, il y a des jeux, il y a des télé-réalités qui font ça dans des chaînes de télé, voilà, bref. Ok? C'est ça, un jeu de piste. Et Dieu, il est comme ça. Il nous rend adultes. On n'est pas des enfants. Donc, il fait pas tout pour nous. Mais il nous aiguillonne. Il nous met des balises. Et c'est ce qu'on appelle le discernement. Quand on discerne ces balises, en fait, on reste sur le bon chemin. On reste sur le bon chemin. Et je me dis, tu es là ce matin, c'est une balise. Parce que Dieu souhaite que tu entendes ce que je partage là. Après, tu fais ce que tu veux avec. Parce que tu es un être libre. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu aussi dit, mon fils, ma fille, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Dieu t'a choisi. Dieu a choisi toi, si tu es en couple, toi et ton épouse, il vous a choisi, toi et ta famille. Si tu es célibataire, Dieu t'a choisi aussi, mon frère et ma sœur. Mais on dit, il m'a choisi pourquoi? C'est une grâce déjà qu'on soit choisi par Dieu. Parce que qui sommes-nous? Il y a 7 milliards d'habitants. Et le nombre de chrétiens parmi ces 7 milliards est très infime. Et le pourcentage n'est même pas à 2 chiffres dans la population mondiale. Donc ça veut dire que c'est un privilège dont nous ne pouvons même pas être orgueilleux. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais il nous a choisis un peu comme Abraham, qu'il a fini par appeler Abraham au chapitre 17, parce qu'il dit tu vas être le père d'une multitude. Et à cause de cela, je change ton nom. On ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera maintenant Abraham. Celui qui a ouvert la voie pour que plusieurs après lui aient confiance en Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu t'a choisi pour que justement tu sois une source de bénédiction. C'est quoi une bénédiction? Une bénédiction, c'est faire du bien. Être une femme, un homme dans lequel Dieu s'investit malgré nos faiblesses, malgré nos défauts. Dieu s'investit en nous pour que nous soyons une source qui fait du bien aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi, ma sœur, pour que tu sois une source de bénédiction. Il y a trop de malheurs dans le monde. Il y a trop de désespérance dans le monde. Il y a trop de calamités. Il y a trop de bagarres dans le monde. Dieu se choisit des hommes et des femmes pour qu'ils soient la solution. Deuxième chose, Dieu fait alliance avec toi. Dieu en Jésus-Christ fait alliance spécifiquement avec toi, avec moi, pour que tu fasses partie de la solution, comme j'ai dit. Cette alliance, c'est Dieu qui dit, c'est une alliance perpétuelle, c'est-à-dire, elle va continuer jusqu'au retour de Jésus. Dieu va continuer de se lier à des hommes et des femmes pour qu'ils soient une source de bénédiction. Moi, j'ai envie d'être une source de bénédiction. Je ne sais pas pour toi, mais je pense que si on est investi d'un peu d'amour propre, on a envie de faire du bien aux gens. Et cette envie-là, on n'y arrive pas toujours. Mais grâce à l'investissement de Jésus-Christ en nous, il amplifie cela et nous donne d'être des sources de bénédiction. C'est pour cela que Dieu a besoin toujours de sauver des hommes et des femmes pour que des hommes et des femmes continuent d'être des sources de bénédiction de génération en génération. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Es-tu de ceux qui rejettent Dieu parce que l'autre humanité a rejeté Dieu? Mais ceux qui sont des sources de bénédiction permettent justement au monde de se reconnecter à Dieu. Et ce matin, depuis quelques semaines, depuis la reprise, j'ai parlé ça à quelques frères et sœurs de la communauté. Nous voudrons être une source de bénédiction. Cette église, pendant des années, et il y a beaucoup d'années en arrière, a fait des campagnes, on en a fait aussi, mais elle avait acquis du matériel pour justement partager cette bonne nouvelle. Il se trouve que chaque rentrée, on fait un peu le ménage. Et quand on a fait le ménage, en tout cas, on a trouvé encore que vous aviez distribué, en tout cas, ceux d'avant avaient distribué déjà beaucoup, mais qu'il en restait beaucoup. Donc, vous voyez les petits livrets qui sont là devant. Il y en a derrière, il y en a sur la table là-bas. Ne partez pas sans en prendre. Et soyez une source de bénédiction. Donnez cela. Donnez à des personnes. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'aimais ça, même si des fois, c'est un peu décourageant, des fois. Quand j'étais dans une ville, il y a quelques années, j'avais le boulanger tout juste en bas de l'appartement, le dentiste qui était pas loin, le médecin qui était à peine 5 minutes à pied. Donc chaque Noël, je faisais un petit colis comme ça pour eux avec un CD chrétien, avec un Nouveau Testament, avec une petite brochure, et puis je leur offrais ça dans un emballage. Moi, le boucher m'a toujours bien reçu, le boulanger aussi. Franchement, ils ont toujours bien pris ce colis. Est-ce qu'ils en ont lu? J'en sais rien. Mais vraiment, ils m'ont dit, monsieur, vous êtes gentil, c'est sympa. Ah, on va écouter. Par contre, le dentiste, je l'ai retrouvé dans sa poubelle, il avait tout pris. J'ai dit, la poubelle, j'ai dit, oh, quand même, il n'aurait pas faire ça. Puisqu'on avait la même poubelle, on était tous en bas. Bon, bref. Mais ça ne m'a pas découragé. Donc, je nous encourage les sources de bénédiction. On ne sait jamais quand quelqu'un va ouvrir ce livre. Et là, Dieu peut lui parler. Ok? Je vous ai dit quoi? Les balises. L'une des balises, ça peut être ce jour-là où cette personne va lire ce petit évangile de Luc, ce petit évangile de Matthieu, et Dieu va se saisir de cela pour faire une connexion avec lui. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette alliance, nous devons faire ça. Ensuite, nous devons aussi être dans la perspective de préparer les bien-aimés. Nous sommes déjà dans le royaume. Il dit qu'il va donner une terre, Canaan, mais on appelle le paradis la Canaan céleste. Nous sommes en chemin pour ce paradis. C'est une réalité. Hein? Abraham est parti sans savoir, mais à la fin, il est arrivé sur ce territoire et Dieu lui a béni. Le paradis n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Jésus-Christ en parle dans l'évangile de Luc, il dit, et dans l'évangile de Jean, il dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Quand il sera prêt, je viendrai vous chercher. Et on a la parabole du pauvre Lazare et du riche. N'est-ce pas? Il dit, Lazare était quelqu'un qui aimait Dieu, mais il avait des conditions terrestres un peu pourries, pauvres. Et il est mort, mais dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et le texte, il est tellement beau dans cette allégorie que Jésus vous raconte. Il dit, le même soir, les anges sont venus chercher Lazare. Il dit, les anges sont venus chercher. Or, le riche, il ne s'agit pas de la richesse contre la pauvreté, il s'agit du fait que, malgré les conditions de vie de chacun de nous, on peut choisir le bon chemin. Malgré la souffrance et la détresse, Lazare a gardé sa confiance en Dieu. Et celui qui était riche, il s'est enrichi, il a oublié Dieu. Et le texte dit, il est mort, il fut enterré, point barre. Il fut enterré. Et Jésus nous enlève le rideau et nous montre la scène de derrière. Il dit, la scène de derrière, c'est que Lazare était accueilli dans le sein d'Abraham et que le riche, il était dans la Guéhenne, là où il y a la souffrance éternelle, là où il y a aucune solution d'avenir pour l'éternité. Et le texte dit que de là où il est, ce riche, il voit quand même le paradis. Donc, il voit Lazare avec Abraham. Il dit, fais Abraham, fais Abraham. Oh.
Je souffre ici terriblement. J'ai soif. Je suis mort de peur, de soif. J'arrive à rien faire. Peux-tu demander à Lazare de tremper son doigt, ne serait-ce qu'une goutte d'eau, à mon palais?
Abraham lui dit, même si on voulait, on ne peut pas. Parce qu'il y a une abîme sans fin, en fait. Il y a une séparation sans fin entre la gaine où tu es et le sein d'Abraham. On ne peut plus traverser, en fait. C'est le seul endroit où, quand tu y es arrivé, tu ne changes plus d'adresse pour l'éternité. L'adresse à laquelle tu pars après ta mort, elle est pour l'éternité. On ne peut plus la changer. C'est pour ça que le prophète dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car tu ne sais pas ce que cela fait demain. C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie à Dieu. Et c'est en Christ, finalement, vas-y Eric, s'il te plaît, et c'est la dernière. Et c'est en Christ, finalement, que tout cela se manifeste, vas-y encore, avec ce texte biblique, Galates, chapitre 5, où l'apôtre Paul dit, en fait, cette promesse faite à Abraham, elle se réalise complètement en Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ que toutes, finalement, toutes les nations de la terre sont bénies pour l'éternité. Car Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Et si je regarde cette assemblée, nous venons déjà de quiconque. Si on regarde nos origines, on vient de partout, les bien-aimés. On vient de partout. Et nous sommes là dans cette petite communauté. On vient de partout, le monde là. Là. Et nous sommes là, dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour ta famille et pour ceux que tu vas rencontrer. Quelle histoire vas-tu laisser Dieu écrit avec ta personne et ta descendance? Quelle histoire? Moi, je prie que ce soit une belle histoire de bénédiction. Et je prie que Dieu te bénisse et que tu sois une source de bénédiction. Et je veux qu'on nous prions. On va prier maintenant. On va prier ensemble. Je vais inviter quelques personnes avec moi sur la, ici devant pour prier avec nous. Je vais inviter Nicole à venir pour prier avec nous. Je vais inviter Henri à venir pour prier avec nous. Je vais inviter Agnès aussi, si elle veut venir, prier avec nous. Et enfin, Josiane, venez prier avec nous, les bien-aimés. Nous allons prier que Dieu nous aide, qu'il s'investisse en nous, qu'il nous bénisse et que nous soyons vraiment dans sa grâce, chacun et chacune. Si vous pouvez vous tenir debout, c'est vrai, il fait chaud, mais on a fini. Vous tenez debout pour ces quelques minutes de prière et d'être en communion avec les bien-aimés. Et pendant que ce bien-aimé prie, demandez à Dieu dans votre cœur que son esprit vous donne de ne pas être insensible à ce qu'on a partagé ce matin. Mais voilà. Henri, vas-y. Et ensuite, Agnès, Josiane et Nicole. Priez dans le micro comme ça, on va tous être bénis.
Merci. Merci, Père. Merci pour ton amour, Père. Nous sommes devant toi. Nous ne sommes pas devant un homme. Oh Dieu, tu nous aimes, Père éternel. Oh Dieu, ton amour est grand. Nous voulons simplement, Père, te supplier que tu nous aides à chercher ta face, comme nous l'avons dit précédemment, te faire confiance. C'est ça qu'en toi, Père éternel, que nous pouvons voir la grandeur, l'amour qu'un homme ne peut pas nous donner. Alors ce matin, Seigneur, devant toi, avec tous nos bien-aimés qui sont ici, rassure-nous, fortifie-nous, montre-nous que c'est toi seul, Père, qui contrôle toutes choses, que nous ne pouvons rien faire sans toi, que tu es le Dieu, le Saint des Saints, celui qui a créé toutes choses. Quand nous voyons, Père, comme le serviteur t'a dit, comme l'a dit, Seigneur, que toutes ces catastrophes, tous ces événements, Seigneur, horribles qui se passent dans le monde, cela nous pousse à croire en toi, à comprendre que, Seigneur, Nous ne pouvons rien faire sans toi. Touche nos cœurs, ouvre notre intelligence. C'est une grâce, Père de Dieu. Comprendre. Tu nous as fait cette grâce. Tu as ouvert notre intelligence, Seigneur. Nous nous voulons davantage. Nous voulons encore, Seigneur, pénétrer dans la profondeur, Seigneur, de la connaissance de ce que tu es. Merci, Père. Touche le cœur de chacun de nous ici, homme, femme, enfant. Parce qu'il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Il n'y a pas d'âge. Tu nous l'as démontré, Seigneur, depuis la création. Depuis la création jusqu'à Abraham. À travers, Seigneur, nos familles, nos enfants, Seigneur. Il est dit dans ta parole que vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous en sommes, Père. Nous en sommes, nous sommes présents, Seigneur, de ta parole. Nous la voyons, Seigneur, ta parole se réaliser. Cette jeunesse, Seigneur, qui est vraiment dévouée à ta parole. Cette jeunesse, Seigneur, qui est à la brèche de ta parole. Quelle grâce, c'est une joie pour nous en tant que parents. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Et merci, Seigneur, pour nous qui sommes aussi âgés. Seigneur, aide-nous. Seigneur, à persévérer, à être exemplaire, Père. Exemplaire de ce que tu es. Nous voulons être des vrais adorateurs. Nous voulons, Père éternel, être, Seigneur, pratiquer le ministère, Père éternel, de l'évangélisation, le ministère, Père éternel, de la réconciliation. Allez de toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples, c'est ce que tu veux, Père. Alors nous voulons le faire, Père éternel. Nous voulons être de cela. Nous voulons, Seigneur, saisir ce ministère de la parole, de l'évangélisation, de la réconciliation. Autour de nous, même ceux que nous croisons dans la rue, un individu, un inconnu, aide-nous, Père. À parler de toi. Les voisins, qu'on vient de le dire, Père, ton serviteur. Celui qu'on ne connaît pas, Père, qu'on lui donne cette brochure. Qu'on lui parle de toi. Les occasions sont nombreuses, Père. Les possibilités de parler de toi sont nombreuses. Alors, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien, de ton discernement. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Merci, Seigneur. Je m'approche devant toi aujourd'hui pour te remercier de faire partie de cette église, Seigneur. Bénis cette église de Créteil, Seigneur, qui nous enrichit chaque dimanche. Bénis notre pasteur, Seigneur, qui nous apporte sa parole et qui nous aide à nous fortifier, à nous élever et de te comprendre, Seigneur. Merci pour tout ce que nous vivons ici, les bons et les mauvais moments. Seigneur, aide-nous toujours à marcher droit devant toi, main dans la main, pour toi et pour toi seul. Par ces mots, je t'ai prié. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te louer, te glorifier, te rendre grâce et gloire. Seigneur, te dire merci pour ton serviteur qui a eu à cœur de nous faire ses rappels. Et cela ne vient pas de lui, mais de toi. Et c'est parce que tu nous aimes. Tu veux nous aider à prendre conscience de l'importance de cette parole que tu nous as laissée. Et c'est vraiment une grâce de ta part. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci Seigneur, quand nous avons écouté. C'est une très bonne chose. Mais s'il te plaît, en grâce, aide-nous à les mettre en pratique. Ces paroles, ces enseignements que nous avons entendus de ta part. part par la bouche de ton serviteur. Seigneur, surtout, surtout, aide-nous à faire le bon choix. Nous avons un jour décidé de te suivre en témoignant publiquement notre appartenance à Christ. Alors, en grâce, aide-nous, Seigneur, à respecter ce choix et cette décision que nous avons prise en obéissant à ta parole. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais ton Saint-Esprit est là pour nous aider à aller de l'avant, à grandir, à nous donner l'intelligence qui vient de toi, afin que nous puissions comprendre de quel amour tu nous as aimés et de respecter le choix que nous avons fait. Seigneur, encore merci pour ces études qui m'ont fait du bien, Seigneur. J'ai eu la joie dans mon cœur, Seigneur, parce que j'ai encore découvert cette parole sur un autre angle que je ne connaissais pas. Et je veux vraiment te dire merci et que j'ai pris la décision de, comment dirais-je, d'approfondir le peu de connaissances que j'ai. Et pour cela, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce pour m'aider, Seigneur, à honorer cette décision que j'ai prise dans mon cœur. Nous voulons vraiment te louer, te glorifier, te rendre grâce et gloire. Oui, Seigneur, chacun de nous qui sommes ici présents en ce matin, nous avons sujet à te dire merci. Nous avons sujet à te donner gloire. Et cela, quels que soient les aléas, Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es là, tu es là. Quand tu nous as fait cette promesse de ne jamais, oh jamais, jamais, jamais nous abandonner. Jamais nous délaisser. Et ça, c'est une promesse véritable et certaine. Et je veux vraiment te louer, te glorifier. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire, la puissance qui te sont dues. Et cela dans le nom puissant de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Éternel, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée en ce matin. Merci pour ton serviteur, Seigneur, par lequel tu as pu nous parler, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, ta parole contient, Seigneur, les promesses, Seigneur, que tu as faites. Et, Seigneur, et nous, au travers de ce message, Seigneur, que la promesse que tu as faite à Abraham, Seigneur, elle s'est accomplie, Seigneur. Tu as promis qu'il serait père d'une grande nation. Et en Jésus-Christ, Seigneur, tous ceux qui croient, qui le confessent, deviennent ses enfants, tes enfants. Et nous faisons partie de ta famille, de ta grande famille, Seigneur. Et tu appelles encore des hommes et des femmes à se confier en toi, Seigneur, à remettre leur vie dans tes mains, reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur, le seul Sauveur, celui qui mène au Père. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. Ta main l'accomplit, Seigneur, et nous sommes vraiment au bénéfice, Seigneur, de ta grâce, jour après jour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des vases d'argile, Seigneur, dans lesquels tu as placé ton trésor, Seigneur. Ce trésor infini que tu veux que nous puissions aussi porter, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas. Tu veux que nous puissions être ces lumières. Tu veux que nous puissions, Seigneur, être ce sel qui donne sa saveur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, aussi témoigner de ce que toi, tu as accompli dans chacune de nos vies. Alors, vraiment, tu soutiennes chacun de nous. Tu soutiennes notre foi afin que nous soyons contagieux aussi au contact des autres, de ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ont besoin de connaître ton amour, alors que si c'était un amour que tu as déversé en nous et que vraiment que cet amour puisse toucher les cœurs, toucher ceux qui sont tout autour de nous, Seigneur, que ce soit au milieu de nos familles, que ce soit au milieu de nos, avec nos collègues, Seigneur, de nos voisins, partout où nous sommes, Seigneur, que nous puissions refléter, te refléter, Seigneur, et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et merci parce que, Seigneur, tu as fait la promesse que tu reviens bientôt. Alors vraiment que notre foi vraiment soit solidement ancrée en toi, nous puissions marcher à ta suite. Il y aura des épreuves, des difficultés, tu nous l'as dit, mais nous savons que toi, tu es le Dieu fidèle et qui nous soutiendra dans notre marche de chaque jour. Merci encore pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Dans le beau nom de Jésus, amen.
Amen. Veuillez vous asseoir et je laisse la place à Eric.
Merci pour la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais demander à un volontaire de passer récupérer le panier, juste pour faire les annonces. Et en attendant, je vais, juste après, rappeler notre pasteur Serge pour la bénédiction et pour la prière pour les offrandes. Et Claude se prépare pour les annonces. Juste avant d'oublier, donc je voulais vous transmettre les salutations de d'Émile et Monique Buval.
Je vais inviter Dylan à venir avec moi. On va prier ensemble, Dylan et moi. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît.